aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Peut-on trouver un commandement plus sublime, mais aussi plus incompréhensible, un commandement plus divin, mais apparemment plus inhumain, un commandement plus admirable, mais aussi plus impraticable. Comment s'étonner, frères et sœurs, que le christianisme, avec un tel commandement, peine à percer au milieu d'autres morales, religieuses ou séculières, autrement plus accessibles, autrement moins exigeantes, moins dérangeantes. Et si malgré tout, nous, chrétiens, sommes assez fiers de pouvoir professer une telle morale aussi élevée, avouons que nous peinons non seulement à la mettre en pratique quotidiennement, mais surtout à la comprendre. Pourquoi un tel commandement ? Alors tout d'abord, que ce commandement soit praticable, malgré les apparences, malgré notre expérience fréquente. Montrons-le par trois exemples authentiques, dont l'un est très connu, les deux autres tout à fait anonymes, pour nous montrer que nous pouvons tous, chacun ici, le mettre en œuvre. Tout d'abord, soit une veuve presque nonagénaire qui vit seule dans son appartement, où elle devient victime d'un larcin odieux qui la dépouille de tous ses bijoux. Les bandits se sont fait passer pour des agents de Veolia, ont circonvenu cette pauvre femme, ont pris tous ses bijoux, et dans les minutes qui suivent sa prise de conscience, que fait cette femme ? Va-t-elle, au nom de l'Évangile, renoncer à porter plainte et, afin de bien tendre l'autre joue, courir après les voleurs en leur disant « Attendez, attendez, vous avez pris mon alliance conjugale, vous avez pris ma bague de fiançailles, vous avez pris des bracelets en or, des bracelets ou des boucles d'oreilles précieuses, mais vous avez oublié un solitaire de chez Van Cleef qui était caché ailleurs. Tenez, le voilà !» Tendu l'autre joue. Non, elle va porter plainte, mais une fois atténué le traumatisme psychique, elle se tourne vers le Seigneur, lui demande la grâce du détachement des biens de ce monde, et non sans continuer d'espérer que la police attrape ses agresseurs, elle se met à prier pour eux, pour leur conversion, pour que le moment venu, ils ne se présentent pas devant Dieu sans repentir, à peine d'un malheur éternel. Deuxième exemple, soit le pape Jean-Paul II, victime d'un attentat qui a failli lui coûter la vie, est-ce qu'il a tenté d'empêcher les poursuites judiciaires contre son assassin ou d'obtenir sa relaxe ? Sûrement pas, il ne le pouvait d'ailleurs pas. Mais une fois cet assassin lourdement condamné, il est allé le visiter en prison, lui a montré de l'affection et lui a donné son pardon. Et finalement, peu avant sa sortie de prison, 30 ans plus tard, le Seigneur a permis que ce criminel repenti abjure l'islam et professe publiquement la foi catholique. Troisième exemple, soit une religieuse africaine, abusée par un prêtre durant son noviciat. Bien des années plus tard, stimulée par l'exemple d'autres victimes et incitée fermement à cela par son confesseur, elle dénonce son bourreau. Celui-ci est alors condamné par la justice de l'Église et il est renvoyé de l'État clérical. Et cet homme, déchu de son prestige, tombe dans la misère, puis dans une maladie incurable, et demande à être accueillie dans un hospice où se trouve justement cette sœur. Eh bien celle-ci, je l'ai entendue de mes oreilles, sans attendre que son abuseur ne lui demande jamais pardon, tâche de le soigner au mieux, jusqu'à sa mort, au nom du Christ. Alors à travers ces trois exemples, vous comprenez qu'un tel chemin d'amour des ennemis n'est possible qu'avec l'aide du Seigneur, parce que le Seigneur a parcouru lui-même ce chemin de subir une offense maximale et de donner un pardon maximal. Mais reste alors pour nous une question difficile. Pourquoi le Seigneur nous a donné ce commandement ? Pourquoi lui-même, en son Fils, a accompli ce commandement à la perfection, en nous aimant jusqu'à la fin, alors que nous ne l'aimions pas ? Alors, écartons tout d'abord une fausse explication. Au nom de l'amour, de l'absolu de l'amour, Dieu fermerait les yeux sur le mal. Il passerait par-dessus, comme si le mal n'existait pas vraiment, et il accorderait à tous son pardon sans aucune considération du mal commis. Comme si l'amour devait ignorer la justice, devait abolir la justice. Or, s'il est vrai qu'en Dieu, l'amour est la mesure de la justice, il est au moins vrai qu'en Dieu, la justice est la mesure de l'amour. D'ailleurs, que veut dire Jésus lorsqu'il nous exhorte « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Il n'affirme certainement pas qu'il n'y aura pas de jugement, ni de triomphe de la justice. Il n'affirme pas du tout que tout le monde sera pardonné indifféremment et absolument. Car enfin, si celui qui ne juge pas ne sera pas jugé, cela implique bien que celui qui aura jugé sans pardonner sera jugé. Et qu'en sera-t-il du criminel que j'aurai jugé sans chercher à lui pardonner ? Nous serons bel et bien jugés, lui et moi. Lui pour son offense à mon égard, sans repentir, et moi pour mon refus de pardonner. Nous serons bel et bien jugés. Bref, l'amour de Dieu ne sera jamais injuste. Alors, pourquoi nous commande-t-il d'aimer ceux qui nous font du mal ? Pour tenter de comprendre, retournons à notre première lecture, à l'exemple de David, poursuivi par le roi Saül. Saül est jaloux des succès militaires de son jeune lieutenant, David, et il veut le mettre à mort. Or, le Seigneur permet que Saül, avec toute son armée, lors d'un bivouac nocturne, tombe dans une profonde torpeur, de sorte que David peut l'approcher. Il se tient à portée de son épée, à portée de vengeance. Et d'ailleurs, Abishai, le lieutenant de David, qui ne connaît pas les secrets de Dieu, qui ignore les profondeurs de sa loi, propose de transpercer Saül. Et David de lui répondre « À Dieu ne plaise, épargne-le ». Et quelle explication donne-t-il ? Pourquoi il faut épargner celui qui veut le mettre à mort ? Ne le tue pas, écoutez bien, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ? Si moi, David, qui suis injustement poursuivi, je porte la main sur celui qui a été choisi par Dieu, je serai puni. Et donc David se retient de porter la main sur celui qui est loin du Seigneur, le roi choisi par Dieu. Alors bien sûr, David ne s'est pas porté au-devant de Saül, qui en voulait à sa vie, en lui disant « Tiens, me voilà, tue-moi, fais de moi ce que tu veux ». Certainement pas. Il s'est enfui. Il s'est défendu. Mais au moment où sa vengeance aurait pu s'exercer, il se retient, en se souvenant que Saül a été choisi par Dieu lui-même. Et qui est-il, David, pour revenir sur le choix de Dieu, pour annuler le choix de Dieu ? Cette dignité sans pareille de Saül interdit à David de se venger. Eh bien, frères et sœurs, en Jésus, qui est sauveur de tous les hommes, qui est mort pour tous les hommes, sans exception, nous apprenons qu'il en est ainsi de tout homme, quel qu'il soit, pas seulement du roi d'Israël. Tout homme est créé par Dieu, voulu par Dieu, choisi par Dieu. aimé personnellement par Dieu, quel que soit son crime, revêtu d'une dignité intrinsèque que rien ne peut effacer, vêtu d'une vocation à devenir fils de Dieu, et une vocation qui dure jusqu'à la mort, jusqu'au choix final en lequel se jouera toute destinée humaine. Alors bien sûr, nous ne sommes pas par nature fils de Dieu, nous ne sommes pas par nature des oints du Seigneur, des Christ du Seigneur. Par naissance, pour reprendre l'expression de Paul dans la deuxième lecture, nous ne sommes que des êtres terrestres, des êtres psychiques ou physiques, qui sont incapables de Dieu. Mais par vocation profonde, nous sommes tous appelés à devenir des êtres spirituels. Nous sommes tous appelés à revêtir l'image du céleste, l'image du Christ, l'image de celui qui vient du ciel. Et c'est par notre repentir, par l'accueil du pardon de Dieu, qui nous est donné inconditionnellement, que tout homme, toute femme devient enfant de Dieu, devient corps spirituel. Puisque nous étions incapables, du fait du péché originel, de nous repentir et de nous tourner vers Dieu, de tourner vers Dieu notre nature terrestre, Jésus a pris lui-même cette nature terrestre et, en l'offrant sur la croix, par amour pour nous, il nous a obtenu le pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est en accueillant ce pardon de Dieu, comme le bon larron sur la croix, à côté de Jésus, que nous devenons enfants de Dieu. Si donc Dieu nous commande d'aimer nos ennemis, de leur pardonner, c'est pour que ceux qui nous haïssent deviennent eux aussi enfants de Dieu, parce qu'ils sont appelés à le devenir par choix de Dieu, parce qu'ils sont appelés à devenir nos frères, quel que soit le mal qu'ils nous ont fait, ils sont appelés à devenir nos frères pour que s'accomplisse en eux aussi le dessein divin universel. C'est pourquoi nous sommes tous appelés, nous, les pardonnés de Dieu, qui accueillons son pardon quotidiennement, nous sommes tous appelés à travailler, à arracher à la mort éternelle ceux qui nous font du mal, parce qu'eux aussi sont aimés de Dieu et appelés à pouvoir accueillir le pardon de Dieu, dont nous sommes comme les instruments. Car Dieu ne veut perdre aucune de ses créatures, aucun de ceux qu'il a créés pour devenir ses amis. Et d'ailleurs, pour finir, si nous communions chaque dimanche avec dévotion, voire chaque jour, au corps et au sang du Seigneur, si nous nous approchons avec vénération de ce don divin, c'est bien pour que nous devenions capables d'imiter Jésus dans le don de son pardon, pour que sa capacité de pardonner soit infusée en nous, pour qu'à notre tour nous devenions les instruments de son pardon. Jésus a livré son corps et son sang en nourriture pour nous, afin que ses frères et sœurs d'adoption que nous sommes devenus, nous chrétiens, deviennent à leur tour instruments de pardon, afin que le Père soit glorifié par tous et le salut répandu dans le monde entier. Amen.